Bonjour, je m'appelle Dan Maigle. Je suis un doctorant. Je travaille avec la professeure Antonia Arnett et professeur Martien Beaulieu, mes co-superviseurs. Alors, je mets l'accent sur l'éducation des sciences infirmières et l'incorporation des technologies en soins de santé au programme des sciences infirmières. Voilà la genèse du projet auquel nous avons travaillé. Donc, comment préparer les infirmières pour les pratiques futures dans l'utilisation des technologies de cybersanté? Au nom de mes co-superviseurs et de Telsa Kebos, qui ne pouvait être parmi nous aujourd'hui, nous aimerions remercier McGill du financement de notre projet et nous aimerions remercier Santé Canada aussi. Qu'est-ce que la cybersanté? La cybersanté, c'est un domaine en croissance en l'heure actuelle et qui correspond à plusieurs technologies utilisées pour aider les professionnels de la santé à fournir des soins de santé dans plusieurs environnements et des services de santé dans plusieurs environnements. Nous croyons en quelque chose très fermement, et c'est l'objet du travail de Dr. Arnett, c'est un volet croissant de la pratique professionnelle. Selon notre perspective, pour l'utilisation de la cybersanté dans la prestation des soins de santé, il y a plusieurs façons de faire. On le fait par la téléconférence, par exemple, la télémédecine est associée à ce type de technologie. Ça peut être aussi simple que le téléphone qui existe depuis longtemps. Alors, on utilise la technologie pour offrir des soins à distance depuis des années. Mais il y a d'autres types de technologies associées à la cybersanté, l'informatique de la santé, la télésurveillance des patients. Donc, on reçoit des données sur le patient et les BlackBerry, les téléphones Android qui peuvent être utilisés dans le cadre de l'appareil mobile de santé. Alors, la technologie de cybersanté, c'est grand, c'est large. Il y a un élément dont nous sommes très conscients. Les professionnels de la santé, dans leur éducation traditionnelle, ne sont pas préparés à acquérir les compétences nécessaires pour utiliser ces technologies. Ils n'ont pas non plus les attitudes et les préparations. Alors, moi, ma préparation, j'étais en contact avec mes patients face à face, peu importe l'environnement, mais la technologie évolue. Et cela nous donne l'occasion d'être en mesure d'offrir des services aux populations mal servies, une population isolée au plan géographique, ou dans ce cas-ci, des gens qui sont isolés de par leur situation linguistique. Nous croyons que c'est une façon d'améliorer la prestation des services de santé, de tous les services de santé, pas seulement les services infirmiers. Alors, examinons les écarts qui existent. Et il y a très peu de données empiriques à l'appui de l'examen de la prestation des services de santé par la technologie. Il y a peut-être 4 à 5 études qui vraiment examinent les connaissances et les compétences nécessaires. Il y a beaucoup de normes professionnelles, il y a beaucoup d'énoncés de positions qui nous disent ce que devraient être ces compétences, mais souvent ça ne se fonde pas sur des résultats empiriques. Tenant compte de tout cela et compte tenu du fait qu'il y a une pénurie de préparation formelle en cybersanté et compte tenu du fait que nous devons offrir des services dans un vaste éventail de contextes. Bon, en parallèle aussi, il y a pénurie de professionnels de la santé. Alors, c'est une autre façon d'accroître l'accès aux soins pour les gens. Nous avons entrepris une étude pour examiner quelles sont les compétences fondamentales nécessaires pour les infirmières qui utilisent les technologies de cybersanté. Nous avons mis l'accent sur la télémédecine et la télésurveillance, dont je parlerai plus à fond dans un moment. Nous avons été en mesure d'obtenir 9 participants. Le problème pour avoir accès à des personnes dans le cadre de ces recherches, c'est que c'est très fracturé, c'est très scindé, c'est très mal utilisé au Québec et en Ontario, par exemple. Et il y a le réseau de télémédecine de l'Ontario. Il y a intégration de la télémédecine et des soins à domicile. Mais au Québec, c'est très distinct. Il y a quelques C3S qui ont le service, mais la plupart d'entre eux ne l'ont pas. Alors, examinons les paramètres démographiques de ces 9 personnes. Il y a un vaste éventail, il y a divers niveaux d'éducation. Il y en a qui ont leur diplôme en sciences infirmières du cégep, il y en a d'autres qui ont un baccalauréat, 2 qui ont une maîtrise. Comme je l'ai mentionné précédemment, la technologie, ce n'est pas quelque chose qui, dans ce format, est intégré à notre programme. Pas encore, en tout cas. Quand nous avons examiné ces personnes, c'était intéressant. Certaines personnes n'ont jamais fait de service bancaire en ligne, mais c'est quelque chose de très simple à faire. Et il y en a qui n'ont pas de qui n'ont jamais utilisé de BlackBerry. Et on examine l'utilisation d'appareils mobiles comme les BlackBerry pour transmettre des renseignements sur le patient, par exemple l'état de santé, sur le diabète, par exemple, pour que l'infirmière voit quelle était la glycémie du patient. Alors, quand on examine les compétences, de quoi parle-t-on? C'est facile à définir, mais ce n'est pas facile à identifier. Il s'agit du savoir intégrer des compétences, des jugements et des attributs nécessaires pour qu'une infirmière ou un infirmier autorisé puisse pratiquer de façon sécuritaire et de façon éthique. Alors, nous avons mené des recherches qualitatives. On a demandé à ces professionnels de première ligne ce qu'ils devaient savoir, quelles étaient les compétences nécessaires et ce qui les aide dans l'adoption de la technologie pour mener à bien leur pratique infirmière. Alors, pour essayer d'identifier ce qui seraient les compétences fondamentales et qu'est-ce qui seraient les compétences de base qui pourraient transcender les diverses technologies, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons examiné deux types de technologies. Alors, j'ai parlé de télésurveillance. De quoi s'agit-il? Une infirmière reçoit des données par un portail Internet ou par un autre dispositif. Le patient, donc, envoie des données quotidiennement, glycémie, tension artérielle, masse pondérale, fréquence cardiaque. L'infirmière reçoit ces données et pose un jugement clinique sur la façon d'intervenir. Quand on parle de télémédecine, ça se présente sous plusieurs formes, mais habituellement, ce que nous avons observé, c'est que les infirmières, bon, sont avec le patient et le spécialiste est là par vidéo. Il y a une consultation vasculaire. Dans un cas, c'est une consultation d'oncologie. On recevait un diagnostic de cancer à distance. Parce que dans certaines situations, bon, c'était quelqu'un qui était dans la basse côte, dans la côte nord et qui ne pouvait pas être présent. Alors, nous avons regroupé tous ces renseignements. Alors, nous avons examiné les résultats. Nous avons voulu voir quelles étaient les compétences fondamentales d'un professionnel de la santé. Pour commencer, peut-être que vous avez vu ça sur le cliché précédent, l'âge moyen des participants est de 51 ans sur 9 personnes. Alors, ce sont des gens qui ont commencé à aborder la cybersanté un peu plus tard dans leur carrière. Alors, comment favoriser l'accès aux soins? Ce qui se démarque vraiment chez nos participants, eh bien, ce sont le coût, l'accès, le temps, conditions météo et une option soucieuse d'écologie, la cybersanté. Dans un site, on envoyait les patients et ils devaient voyager pendant 3 heures jusqu'à une grande ville pour avoir une consultation de 20 minutes, se battre contre la circulation à l'heure de pointe et ça leur faisait perdre une journée. S'ils avaient des enfants, c'était encore plus compliqué, perte de revenus et plus de frais de garde. Non, voilà, on se demandait qu'est-ce que ça voulait dire favoriser l'accès aux soins. Les infirmières, on a appris qu'il y a des compétences générales nécessaires et qui viennent de leur éducation en sciences infirmières et qui sont issues de leur expérience professionnelle. Nous avons une affiche et un document qui présente ces données plus en détail. Alors là, j'en parle seulement brièvement. Les compétences générales infirmières, eh bien, processus décisionnel clinique, apprendre, enseigner, collaboration avec d'autres disciplines en santé, défense des intérêts des patients. Alors, ça concerne l'engagement. Comme vous pouvez l'imaginer, cet engagement avec les patients dans un environnement virtuel, c'est bien différent que quand on est face à face. Qu'avons-nous observé? Dans l'adoption de la technologie de la cybersanté, il y a cette généralisation des compétences générales quand on adapte Cela plus loin. Comment apprend-on à connaître la personne quand on utilise la cybersanté, les courriels et la vidéoconférence? Comment offrir les services de soins? On nous enseigne la gestion du changement et d'autres compétences, mais nous devions les mettre à l'avant-plan, vraiment, dans l'utilisation de ces technologies de super-santé. Il y a de nouvelles compétences aussi qui sont nécessaires, pour lesquelles il n'y avait jamais eu de formation officielle, où il n'y avait jamais eu de formation en milieu de travail. Donc, le marketing, les compétences techniques, comment faire fonctionner un BlackBerry, par exemple, comment régler des problèmes, particulièrement dans les régions éloignées où peut-être qu'il n'y a pas de service d'ETI. Alors, il y a d'autres compétences qui sont nécessaires, que les gens doivent acquérir au travail. Comme je l'ai dit, cela n'est pas couvert dans les programmes éducatifs. Donc, afin de favoriser l'accès aux soins par l'utilisation des technologies de cybersanté, il faut commencer par un ensemble de compétences fondamentales et ajouter d'autres compétences et, au bout du compte, offrir les services. Les compétences principales sont l'expertise clinique, les compétences technologiques, la collaboration avec un grand C, on sait comment collaborer avec les autres au niveau du patient, mais maintenant, on doit composer avec des vendeurs, avec des organismes gouvernementaux. Et aussi, il y a un élément de marketing dans tout cela. Voilà certains des autres thèmes émergents au niveau du rôle infirmier, clinicien, coordinateur, éducateur, défenseur, superviseur, facilitateur, administrateur, agent de changement. Mais nous avons observé bien des écarts. Manque de soutien institutionnel, résistance des fournisseurs, pas tant les patients. En conséquence au niveau de la terminologie et du type d'infrastructure. Alors voilà, nous voulons essayer de créer un programme de formation avec tout cela. On voulait faire des manuels électroniques, mais on nous a dit qu'on apprend mieux quand on a la technologie, quand on a du temps pour jouer avec la technologie. Est-ce que le manuel électronique de ressources sera utile? On verra. Et peu importe ce que nous allons faire, on va aller de l'anglais jusqu'au français. Il y a un problème que nous avons rencontré. Quelqu'un au C3S.N de Lille offrait des services à quelqu'un ailleurs et le faisait donc à distance. Ce que ça nous dit, c'est que si vous n'avez pas une langue qui n'est pas représentée, on peut combler ces écarts en faisant appel à un emplacement où les services dans cette langue existent bel et bien. Merci.